J'ai commencé en début de mois une prédication sur les signes authentiques de la réconversion. Alors, je vous avais déjà donné les raisons pourquoi j'ai pris ce temps pour aborder ces sept signes authentiques d'une réconversion. Je pense que c'est important, nous en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'Église, de comprendre ce que la parole de Dieu a à nous dire, mais en même temps de voir exactement ce qui s'est passé dans l'Église primitive. Et ces signes sont là pour nous montrer l'authenticité d'une vraie conversion. Un petit résumé rapide, pour pas prendre trop de temps, mais tout d'abord, on a vu la conviction de péché, donc la repentance. Je pense que c'est quelque chose qui, malheureusement, de nos jours s'oublie, où on minimise cette affaire de la repentance, mais les premiers chrétiens avaient bien compris cet aspect de la repentance. J'aurais aimé voir le nuque sortir de son quand il a été baptisé. J'aurais aimé voir l'apôtre Paul se convertir sur la route de Damas pour voir leur visage quand il a compris que Jésus-Christ était le sauveur de sa vie. Enfin, on aurait aimé, n'est-ce pas, voir toutes ces personnes qui ont accepté Jésus. Et j'aurais bien aimé voir aussi ces femmes qui ont assisté à la résurrection. Et quand l'ange leur a dit, mais voilà, tout ce que Jésus vous a dit, c'est réalisé, j'aurais bien aimé voir la conviction dans leur cœur quand ils sont allés annoncer cela à ces hommes, Pierre et les autres, qui ont un peu marqué de, je dirais, pas forcément de la conviction dans leur cœur. Mais la repentance a marqué, n'est-ce pas, les premiers chrétiens, et je pense que c'est important de le rappeler. Pour éviter la contrefaçon, pour manifester cette repentance. Le deuxième signe, c'est la compréhension des Écritures, c'est-à-dire ça a été manifesté dans le fait qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire c'était important, d'accord, de persévérer dans l'enseignement, et la Bible a été mise en avant avec les premiers chrétiens, et je tiens quand même à vous rappeler, ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Ils avaient uniquement que l'Ancien Testament, donc sûrement des rappels constamment par rapport à l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament est arrivé bien plus tard, quelques décennies un petit peu plus tard, où il y a eu des témoignages, comme la parole de Dieu nous l'explique. Donc aujourd'hui nous sommes privilégiés d'avoir cette parole ici devant nous. Et puis un troisième signe, c'est le lien de famille, donc dans le sens de la communion fraternelle qui se vivait à l'époque. Nous l'avons déjà vu, je ne vais pas remettre une couche avec cette affaire de communion fraternelle, c'était important. La quatrième signe, c'est la découverte de la prière. En tant que chrétiens, eh bien, ils ont appris à prier ensemble. C'est vrai que la Bible dit qu'il faut prier individuellement dans la chambre, mais en même temps, ils ont appris à prier ensemble. Et je rappelais que la dernière fois, que quand Pierre était en prison, les chrétiens étaient en train de prier pour lui. Et je pense que c'est un aspect que nous oublions bien souvent, même si on ne se voit pas tout le temps, mais les chrétiens priaient pour l'apôtre Pierre quand il était en prison. Un autre aspect, c'est... je tourne mes pages, excusez-moi. C'est le cinquième, c'est un cœur nouveau. C'est le cinquième aspect que je voudrais voir avec vous. Un autre signe, c'était que les personnes qui avaient accepté Jésus avaient un cœur nouveau. Le jour de la Pentecôte, le jour où ils se sont convertis, ces personnes, la Bible dit qu'ils avaient, ils ont reçu la Bible avec simplicité de cœur. Le message était reçu avec simplicité de cœur. On a vu dans leurs yeux, dans leurs oreilles, dans leur manière de parler, qu'ils avaient complètement changé leur vie avec leur simplicité de cœur, comme la parole de Dieu nous le dit. Paul a déclaré aux Corinthiens, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Un enfant de Dieu doit manifester une nouvelle créature. Et les premiers chrétiens ont vraiment manifesté une nouvelle création dans leur vie. Il suffit de lire le livre des Actes des Apôtres que, quand leur vie a été changée, bien de suite, ils ont marché en nouveauté de vie et ils nous ont montré aussi qu'ils voulaient suivre le Seigneur, coûte que coûte, qu'importe tout ce qu'il pouvait arriver. Étienne en a payé le prix fort, n'est-ce pas, pour sa nouvelle vie en Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il a été lapidé. Jacques en a payé le prix fort, n'est-ce pas, pour avoir accepté Jésus-Christ, puisque la Bible dit qu'il a été enfermé et exécuté par les Romains de l'époque. Voyez-vous, on n'a pas cette persécution dans ce pays, et gloire à Dieu, on ne l'a pas. Mais je me dis, combien de pays, quand vous acceptez Jésus-Christ, vous passez par la persécution littéralement de la famille, des parents, des amis. Je dirais, à côté de chez moi, j'ai un chrétien, il prie tous les jours, celui-là, il faut le mettre en prison. C'est pas le cas, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà prié tous les jours, j'espère que vous priez tous les jours, mais aucun de vos voisins, n'est-ce pas, n'est venu vous voir pour dire, si tu continues à prier, on va te mettre en prison. J'ai un de mes voisins, celui de gauche, il s'est fait cambrioler récemment de sa voiture. Il s'est levé le matin, il avait une voiture, mais sur des parpaings. Donc il a pris la décision de mettre des caméras de partout. Si vous allez chez lui aujourd'hui, j'en ai rigolé hier, avant-hier avec lui, on a l'impression que c'est Alcatraz, que la prison, c'est devenu, il a mis des caméras de partout. Il visionne le terrain, il visionne sa maison, enfin tout est visionné. Il y a des lumières qui s'allument chaque fois qu'il y a une mouche qui passe devant quelque chose. Mais ça montre bien que cet aspect, n'est-ce pas, de la nouvelle création ne se voit pas forcément chez lui. Mais nous savons que l'homme est dur, le cœur de l'homme est dur. Mais nous n'avons pas besoin de réagir comme ça en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons montré à cette humanité que tout simplement nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur et que nous voulons manifester une nouvelle création en nous. Leur cœur s'apparaît avec chacun, c'est-à-dire ils avaient une crainte et ils voulaient vivre ensemble cette crainte dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et je pense que c'est ce cœur nouveau qui battait dans leur cœur, qui manifestait cette envie nouvelle. Alors, il faut bien le confesser que parfois, personnellement, moi je me pose la question, est-ce que cette vie nouvelle est vraiment manifestée dans ma vie? Est-ce que je manifeste vraiment cette vie nouvelle en Jésus-Christ? Je dois confesser que parfois, oui, et parfois, non. Il y a des fois, j'ai la joie dans le Seigneur, puis il y a des fois où la joie n'est pas là. Et on doit confesser que parfois on arrive au culte et les voix ne sont pas forcément harmonieuses. Et le Gloria que nous avons chanté ce matin, merci Seigneur, il était harmonieux ce matin. Mais parfois, c'est pas si harmonieux que ça. Et nous avons obligé de constater que parfois notre vie, je dirais, de désobéissance prend le dessus sur la vie de l'obéissance avec le Seigneur. Mais vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'apôtre Paul, quand il parle à l'église d'Éphèse, on voit une église qui a changé son cœur. Mais si vous lisez la parole de Dieu, Apocalypse, chapitre 2, verset 4, c'est la même église. Et voici ce que Dieu reproche à cette église. Elle avait abandonné son premier amour. Alors, je ne sais pas si vous avez abandonné votre premier amour pour Jésus-Christ, mais c'est le reproche qui est fait à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné son premier amour. Un petit peu plus loin, chapitre 3, c'est l'église de Laodicée. Le reproche qu'on lui fait à cette église, c'est qu'elle était ni bouillante, ni froide. Elle était tiède. Voilà le reproche que le Seigneur fait à l'église de Laodicée. Ni trop chaud, ni trop froid. Tiède. Alors, je ne sais pas pour vous, mais comment vous envisagez l'église locale, comment vous envisagez votre église, moi je voudrais qu'elle soit toujours bouillante. Non pas à ébullition, non pas pour que ça déborde, je dirais, de cris ou je ne sais pas de quoi, mais vraiment une église qui manifeste vraiment la simplicité de cœur, qui manifeste l'esprit nouveau en Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur nous demande. Et c'est ça que nous voulons vivre dans le présent aujourd'hui. C'est vrai que parfois on a hâte d'être avec le Seigneur dans l'éternité pour se dire, allez, vivement que le Seigneur revienne. C'est ma prière parfois dans mon bureau seul. Vivement que le Seigneur revienne. Mais en attendant que le Seigneur revienne, je voudrais vivre avec simplicité de cœur. Sixième signe de la grâce, c'est une mesure d'assurance. Je ne sais pas si vous avez vu le verset 46 et le verset 47 de Acte 2. Ces chrétiens avaient la joie. J'en ai déjà parlé un petit peu, et il louait le Seigneur. Alors, bien sûr qu'on aimerait connaître les cantiques que les premiers chrétiens louaient. Et puis, on voit aussi que Jésus chantait des cantiques. J'aurais bien aimé connaître la partition du cantique que le Seigneur a chanté, ou les cantiques que le Seigneur a chanté avec ses disciples dans la chambre haute, juste avant d'aller à la crucifixion. La Bible nous dit qu'ils avaient une mesure d'assurance, c'est-à-dire que ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient cru, avait conforté leur assurance en Jésus-Christ. Mais la Bible dit clairement que quand on a Jésus-Christ, quand on a accepté Jésus-Christ, la Bible nous parle qu'on a été scellé par l'œuvre du Saint-Esprit que Jésus-Christ nous avait promis dans la parole de Dieu. Et nous avons ce sceau qui est là, qui nous montre que nous sommes bien en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 13, qui nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et qui avez cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit et qui avait été promis. » C'est la marque, je dirais, de l'authenticité. Si vous êtes un enfant de Dieu, eh bien, vous êtes certifié authentique. Ça ne vient pas de Chine. Ça ne vient pas de l'Afrique, du Nord, pour parler tout juste de certains habits qui viennent parfois de l'étranger. Non, c'est authentique. En Christ, vous êtes devenu authentique, né de nouveau. C'est le document que les aristocrates, pardon, manifestaient avec la cire pour signifier que le document était authentique. J'aimerais bien voir ce document quand j'arrive dans l'éternité. Authentifié. J'aimerais bien voir aussi cet instant avec le Seigneur, où il va prendre le livre de la vie et où il va chercher mon nom. Je vais le rassurer, c'est B, c'est assez rapide. A, B, mon nom c'est B, c'est juste au départ de l'alphabet français, Seigneur, pas le reste, français, B, bien procédé. Oui, j'aimerais avoir ce moment pour réjouir dans mon cœur quand il va prononcer mon nom dans l'éternité. Et qu'il va dire gentiment et avec amour, entre dans la présence de ton maître, bon et fidèle serviteur. Oh, ce mot, j'aimerais l'entendre déjà ici, mais c'est dans l'éternité qui va être prononcé par le Seigneur. En tout cas, j'ai cette conviction dans mon cœur que je suis un enfant de Dieu et que ce sceau est authentique et que rien ne pourra enlever cela. Le septième signe, et ça sera le dernier ce matin, c'est les attaques de Satan. Alors, acte 2, si vous connaissez ce chapitre et si vous le lisez tranquillement à la maison, vous allez voir que ce signe n'y est pas indiqué. Mais si vous lisez l'ensemble du livre des Actes des Apôtres, Satan n'a pas laissé tranquille les chrétiens. Les premiers chrétiens n'ont pas du tout été tranquilles. Le Satan tire à boulet rouge, littéralement. La Bible nous montre bien clairement que parfois le diable est redoutable avec nos vies. Et dire que parce que nous avons maintenant accepté Jésus-Christ, eh bien tout va être beau, tout va être tranquille, tout va être bien. Non, non, oui, quand vous étiez dans le monde, tout était tranquille. Maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature et Satan va tirer un boulet rouge. Il va tirer un boulet rouge pour vos craintes, pour vos doutes, pour quand vous allez penser peut-être différemment. Oui, le diable va tirer un boulet rouge. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, contre les principaux, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà avec qui nous allons combattre tous les jours. Notre vie va devenir un champ de bataille. Alors, c'est pas réjouissant, n'est-ce pas, cette affaire de champ de bataille. Mais je voudrais quand même vous le dire, on a déjà gagné. On a déjà gagné. Le Seigneur a déjà gagné la victoire. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible le dit. Et je voudrais prendre avec assurance cela. Quand demain vous allez avoir un doute dans votre esprit qui va traverser, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Mais oui. Si vous avez cru que Jésus-Christ est votre sauveur, vous êtes un enfant de Dieu. Quand le diable va venir vous parler ou vous montrer, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu authentique? Mais oui. En Jésus-Christ, si vous êtes une nouvelle créature, pas de problème. Pas ni problème, comme disent les Antilles. Quand vous avez un doute dans votre esprit pour certaines choses, ou quand vous vous culpabilisez dans votre cœur, je voudrais vous donner un verset qui a changé ma vie. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, Je luttais comme peut-être vous luttez encore, et je lutte aussi encore aujourd'hui avec l'ancienne nature. Elle me faisait du mal. Et puis un jour, je dis, mais c'est pas possible, je vais me culpabiliser toute la vie par rapport à cette ancienne nature qui est là, qui me fait du mal, qui me fait du tort. Et quand je suis tombé sur ce verset, je me dis, bien sûr que je vais lutter avec mon ancienne nature. Bien sûr que Satan va me culpabiliser. Bien sûr que Satan va me montrer parfois, va me tirer à boulet rouge. Mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le fait d'avoir accepté Jésus-Christ, d'avoir pris dans mon cœur cette conviction, eh bien cela me donne une espérance nouvelle dans ma vie. Et je veux le manifester tous les jours dans mon existence. Un petit rappel d'une vraie conversion. La repentance, c'est quelque chose d'important. Le moment qu'on passe du temps avec le Seigneur dans la lecture de la parole, c'est important. La communion fraternelle, c'est important. La prière, c'est important. Autant dans votre chambre, individuellement, que le temps que nous avons en commun, ensemble. Un cœur nouveau, c'est quelque chose d'important. Si un chrétien ne manifeste pas une vie nouvelle en Jésus-Christ, eh bien, on peut se poser quelques questions. Le sixième signe, c'est l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. Et le dernier, c'est le Satan qui se déchaîne, bien sûr. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que les signes apparaissent tous le même jour? Je me suis posé la question au début de ma vie chrétienne. Est-ce que je vais recevoir la totale, comme on dit aujourd'hui? Mais il faut avouer que dans l'exemple de la parole de Dieu, quand on regarde certaines personnes, eh bien, certaines personnes ont reçu tout de suite. Et puis d'autres personnes, il a fallu un certain temps pour les comprendre, certaines choses. Ce qui a été mon cas. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre certaines choses que je ne remets plus du tout en doute aujourd'hui. Même si je les ai compris avec un certain temps, je ne les remets plus en doute aujourd'hui. Et je pense que nous avons besoin, nous en tant qu'Église et en tant qu'individu, le but n'est pas de juger notre frère à côté, les personnes qui sont à côté de nous, sur le banc de l'église, mais si vous avez un doute, bien priez pour lui, afin qu'elle change sa vie. Notre monde fabrique des personnes superficielles. Nos églises doivent fabriquer des personnes authentiques. Nous devrions fabriquer des personnes authentiques dans nos églises. Je voudrais terminer avec ce passage que vous connaissez, puisque je vous l'ai cité plusieurs fois. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. J'espère de tout mon cœur que toutes les personnes qui sont ici ce matin, vous puissiez avoir la conviction que si demain il vous arrivait un problème et que vous partiez dans l'éternité, le Seigneur, le jour où il va ouvrir le livre de la vie, que votre nom soit écrit dessus. Ma prière, c'est ça ce matin. Je prie vraiment le Seigneur que le jour où vous allez vous présenter devant le Seigneur, que vous ayez la conviction que votre nom soit écrit sur le livre de la vie. J'ai personnellement cette conviction. Nul ne me la retirera. Personne ne me la retirera. Vous savez pourquoi? C'est Jésus-Christ qui a mis cette espérance dans mon cœur. Et Jésus-Christ ne joue pas avec nous. Quand il vous donne quelque chose, il vous le donne pour l'éternité. La vie éternelle, c'est pour l'éternité. Donc, ce qu'il m'a promis il y a quelques années en arrière, il peut vous le promettre encore aujourd'hui. Amen.
Amen.
Amen.